RCF.
Il n'y a pas de vie sans combat, mais alors que certains combats finissent par nous épuiser et avoir raison de nos forces, d'autres nous redonnent vie et nous dévoilent qui nous sommes au fond. C'est ce combat qu'a mené François d'Assise, un combat paradoxal qui a consisté à rendre les armes pour laisser Dieu être le maître de sa vie. Et c'est aussi à ce combat que vous nous invitez, Suzanne Giuseppi Testu. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce studio pour évoquer donc le combat spirituel, puisque c'est à ce thème que vous consacrez le livre que vous publiez chez Nouvelle Cité. Ce livre s'intitule « Le combat spirituel à la lumière de saint François d'Assise et de ses frères ». Vous êtes laïque franciscaine et vous faites de l'accompagnement spirituel. La tradition dans laquelle vous puisez votre énergie et toutes vos idées, c'est donc cette tradition franciscaine à laquelle vous êtes donc très liée. J'aimerais tout d'abord savoir en quoi est-ce que cette tradition, cette spiritualité vous touche personnellement au point de vous engager comme laïque franciscaine donc.
Ah, alors, elle me touche, oui, vraiment très profondément, tout simplement parce que c'est une spiritualité de vie. C'est une spiritualité qui nous conduit vers la liberté. Et François était et est toujours pour moi un homme extrêmement vivant et un homme, avec ses frères également, qui nous conduisent toujours vers cette liberté. C'est pour ça que je suis franciscaine séculière.
Alors quand on parle de François d'Assise et de cette spiritualité, ça n'est pas forcément en l'associant immédiatement à l'idée de combat spirituel. D'autres spiritualités nous amènent plus facilement, disons, à envisager les choses voilà, de ce côté-là. Non, mais par exemple la spiritualité ou la tradition jésuite, enfin des choses comme ça.
Oui.
La spiritualité franciscaine, beaucoup moins. Est-ce que vous avez vous aussi ce sentiment ou c'est une fausse idée ?
Je crois que c'est une fausse idée, c'est une méconnaissance de saint François d'Assise, parce que, je le dis au tout début de mon livre, comment peut-on imaginer François en combattant alors qu'il se dit idiota, qu'il se dit simplet, et que peut-être que pour combattre, il faut tout de même avoir certaines connaissances. La tradition nous dit qu'il parle aux oiseaux, qu'il est un homme de paix, alors comment peut-on parler de François et du combat spirituel? Et quand on me pose cette question, je réponds tout simplement que s'il est devenu homme de paix et s'il sait parler aux oiseaux, ça ne s'est pas fait tout seul, c'est tout simplement parce qu'il a mené un combat sur lui-même, pour justement répondre à l'attente du Seigneur. Le combat spirituel ne s'improvise pas, il ne s'invente pas, il a été guidé sur ce combat, et c'est pour cela qu'il est devenu homme de paix. Alors donc, c'est vraiment une fausse idée, il faut apprendre à connaître l'homme François, et ne pas s'arrêter au saint, avec tout ce qui nous est dit au niveau hagiographique, avec toutes les histoires qui, certes, ont une part de vérité, mais qui ne représentent pas l'homme dans sa réalité. Et en fait, c'est cet homme-là qui est très intéressant.
Et qui peut nous parler aujourd'hui ? C'est-à-dire
oui.
que le combat spirituel et la vie spirituelle qu'a mené François d'Assise et qu'ont mené ses frères avec lui peuvent nous aider aujourd'hui, nous, dans notre vie quotidienne de croyants, dans notre recherche de vérité, de liberté.
Oui, plus que jamais, parce que François est vraiment intemporel. Et les exemples qu'il nous donne sont des exemples de vie concrets. François n'a pas le langage de la morale. Certes, son ordre est fondé sur une règle, mais il sait très bien que ce ne sont pas les règles qui font la bonté d'un homme. Tout simplement, sa vie est fondée sur un amour fou de Dieu. Mais à partir de cet amour fou, il s'engage et il nous donne des exemples de vie, avec ses frères d'ailleurs, très concrets, et qui nous rejoignent dans notre monde actuel, même s'il y a 800 ans qui nous séparent. Et c'est cela qui est intéressant chez François et ses frères.
Alors, est-ce que c'est intéressant aussi de parler aujourd'hui du combat spirituel ?
Plus que jamais.
Pourquoi ?
Plus que jamais, parce que tout simplement, nous sommes très confrontés, nous sommes confrontés à de très grandes sollicitations, à de très grandes tentations, les familles qui éclatent, nos églises, je ne dis pas qu'elles se vident, mais on y voit de moins en moins de jeunes. La relation, par exemple, est très attaquée. Nous ne savons plus vivre en relation, nous ne savons plus vivre vraiment, nous ne savons plus faire famille, nous ne savons plus fraterniser. Donc, si nous n'apprenons pas à à combattre spirituellement pour retrouver justement ces valeurs, nous sommes perdus. Et nous sommes perdus personnellement, mais aussi, je crois que c'est important au niveau de l'humanité tout entière.
Alors, qu'est-ce qu'on entend par combat spirituel ?
Alors, le combat spirituel, je pense que c'est d'abord vivre, avoir le désir de vivre l'évangile à la suite du Christ. Alors, le mot combat est un mot, bien sûr, qui peut faire peur, mais c'est le combat de tout homme qui désire aller vers le Père et se laisser conduire par le Christ et animé par l'Esprit Saint. C'est tout cela le combat.
Suzanne José Pitestu, on va avoir l'occasion évidemment d'approfondir tout ça, mais je lève quand même un petit peu le coin du voile tout de suite en citant le tout début de votre livre et cette phrase « Les armes de notre combat ne relèvent d'aucun arsenal humain ». Le combat dont on va parler et auquel nous invite François d'Assise, ça n'est pas un combat qui consiste à prendre les armes ?
Surtout pas. Vous l'avez dit, nous n'avons pas besoin de faire appel à l'arsenal humain et Dieu sait si en ce moment nous y faisons appel dans le monde entier. L'arme essentielle du combat, parce que c'est l'amour et c'est celle qui va résoudre tous les conflits. Et il est certain que c'est une arme, il faut apprendre à s'en servir. Tout le monde parle de l'amour, mais nous savons que nous en faisons un mauvais usage. Et il est là le véritable combat, parce que cela va nous demander un grand dépassement. Cela va nous demander de faire abstraction de nous-mêmes. Et cela va nous demander aussi d'apprendre à regarder l'autre, à aimer l'autre. Je crois qu'il est là le véritable combat et la grande difficulté.
Est-ce que c'est une arme efficace, l'amour ? Certains se sont lancés dans l'aventure. Il y a de grandes figures beaucoup plus proches de nous dans le temps, comme Martin Luther King ou comme Nelson Mandela ou comme Gandhi, des gens qui ont essayé d'en passer par là. Qu'est-ce qu'on peut en dire ?
Oui, je crois que c'est beau de faire cette comparaison, enfin de parler de ces hommes tout en parlant de François d'Assise, parce que ce sont des hommes de paix. Et peut-être que même derrière François, on ne voit peut-être pas l'utilité forcément de son combat, mais en fait ce sont des hommes qui ont eu l'audace et le courage d'aller parfois à contre-courant, au risque de leur vie, au risque d'être incompris, d'être jugés, d'être condamnés. Mais si on reprend l'histoire et si on reprend leur vie, on s'aperçoit que leur combat n'a jamais été inutile. Mais il n'est jamais fini, le combat de l'amour n'est jamais terminé. Et jusqu'à la fin des temps, il faudra utiliser cette arme, même si nous n'en voyons pas tout de suite les effets. Mais vous m'avez posé une question.
Oui,
je sais par expérience que l'amour
est efficace.
Oui, est agissant. Je le vois en tant qu'accompagnatrice spirituelle. Je le vois en animant des sessions et des retraites spirituelles. Je vois à quel point il y a une soif à ce niveau-là. Et je vois à quel point quand on parle de l'amour et qu'on est face à des personnes qui ont le désir de vivre dans la paix, le désir d'être des témoins de l'amour du Christ, ou même des hommes et des femmes qui ne sont pas forcément chrétiens, mais qui sont des hommes beaux, eh bien, je vois à quel point on est sur le même terrain. Et il est certain qu'en tant que chrétiens, nous avons à imiter le Christ à ce niveau-là. Ça porte toujours des fruits, ça j'en suis certaine.
C'est une imitation du Christ ? François nous y invite, mais c'est avant tout une imitation du Christ.
Oui, je crois que le combat spirituel, je parle en tant que franciscaine, je parle en tant que chrétienne, en tant que baptisée, pour moi le combat spirituel ne peut se faire sans le Christ. Je pense que la fraternité ne peut s'accomplir véritablement qu'à travers l'amour du Christ. Ça me paraît absolument indispensable. C'est d'une force telle, c'est une nécessité, il faut s'appuyer sur la parole.
Et alors, qu'est-ce que nous offre quelqu'un comme François d'Assise de plus ou d'autres ? C'est un chemin qu'il a tracé ?
Je pense que, paradoxalement, ce qu'il nous offre de plus, c'est son humanité. Parce qu'on a l'impression, en écoutant la vie des saints, surtout plusieurs siècles après, on brosse des personnages extraordinaires qui vivent sur un petit nuage, qui sont fantastiques. On a l'impression que tout s'est fait d'un coup de baguette magique. Et je pense que ce que François, la force de François, c'est son humanité et de voir à quel point c'était un homme comme les autres. Quand on parle de fraternité avec François et les frères, par exemple, ne nous imaginons pas que cela s'est fait tout seul, comme je le dis, d'un coup de baguette magique. Ils ont dû lutter parce que ce n'étaient pas des petits anges, vous savez, ce n'étaient que des hommes. Et la fraternité, elle s'est construite. Et elle s'est construite à partir de l'attention, à partir de la vigilance, à partir de l'écoute du cœur, et justement à partir de ce désir de vivre à la suite du Christ et de vivre en imitant l'amour du Christ, de s'appuyer sur le Christ et sur la parole. Et je crois que là, on y arrive vraiment. Et c'est ça le miracle de la grâce.
Et peut-être pour conclure ce premier entretien, Suzanne Giuseppe-Castu, ce qui est important de dire, c'est que ce que vous proposez là, et puis le contenu de votre livre, ça n'est pas entrer en résistance, ça n'est pas entrer en lutte contre tous et avec n'importe quelle arme. C'est un peu le contraire.
Bien. C'est très bien de le dire, parce que oui, ça fait peur. Le mot combat est un mot très masculin. Et en fait, en tant que femme, je l'emploie allègrement et avec joie. Parce que justement, c'est un combat. C'est le combat pour la vie. C'est le combat pour l'amour. C'est le combat de la tendresse.
C'est le combat pour.
C'est le combat
pas contre.
Pour. Et pas contre. Parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas de perdants dans ce combat. Il n'y a que des gagnants. Il n'y a pas d'ennemis à vaincre ni à tuer. Il n'y a que des hommes à aimer. C'est pour ça, en tant que femme, j'en parle avec mes entrailles de femme. Et je crois que la force de François aussi, c'était d'être habitée par ses entrailles féminines. Et c'est pour ça qu'il pouvait parler du combat avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup d'amour.
Dans notre précédent entretien, Suzanne Giuseppe-Castu, vous avez terminé en disant qu'il n'y a pas de perdant dans le combat auquel nous sommes invités, celui qui nous conduit à la suite du Christ. Il n'y a que des gagnants.
Oui.
Il s'agit en quelque sorte, vous dites aussi dans le livre, de quitter l'homme ancien, le vieil homme. C'est Saint Paul qui dit ça.
C'est Saint Paul.
Pour nous inviter à devenir un homme ou une femme nouveau, nouvelle.
N'oublions pas les femmes, oui.
Vous y tenez beaucoup. Qu'est-ce que c'est être un homme ou une femme nouvelle ?
Je crois que, avant de parler d'être un homme ou une femme nouvelle, il me semble qu'il est très important de se savoir totalement humain et de poser un regard vrai et honnête sur notre humanité, justement, sur ce vieil homme, et apprendre, et c'est ce que François nous engage, et il engage ses frères à cela, à reconnaître ce vieil homme, à savoir ce que nous contenons, parce que si on ne part pas à la reconnaissance de ce vieil homme, si on ne sait pas nommer tout ce que nous contenons, si on ne sait pas nommer toutes les passions...
Ça demande une lucidité, quoi, sur ce
qu'on est. Être très lucide, je crois que c'est ça la force de François, oui, c'est être profondément lucide, apprendre à se voir et apprendre à se voir sans peur. Et sans culpabilité.
C'est-à-dire nos limites, nos défauts.
Nos limites, notre faillibilité, les passions que nous contenons, les réponses que nous donnons qui ne sont pas toujours à la hauteur peut-être de ce que nous voulons être ou nous désirons être. Parce qu'on a très envie de vivre l'évangile à la suite du Christ. On en a un désir sincère. Mais justement, ce vieil homme est là. Et si nous le recouvrons, si nous ne savons pas le voir, si nous ne savons pas le nommer, et j'ai envie de dire, cela peut surprendre un peu, si nous ne savons pas entrer en miséricorde avec ce vieil homme, comment pouvons-nous laisser la place à l'homme nouveau, c'est-à-dire le Christ ? Comment pouvons-nous combattre et apporter les remèdes qui vont nous permettre de nous séparer de ce vieil homme ? Et là, à ce moment-là, je vais voir le manque de liberté. Je ne suis pas libre si c'est l'homme, le vieil homme qui commande en moi. Et s'il n'y a pas ce désir d'affermissement, s'il n'y a pas ce désir de changement, de se laisser réajuster par le Christ, je ne pourrai pas laisser la place à l'homme nouveau, je ne pourrai pas laisser la place au Christ en moi, je ne combattrai pas.
Vous avez parlé de miséricorde ou de bienveillance finalement vis-à-vis de nous-mêmes. Patience aussi, vous insistez dans le livre sur cette dimension importante. Ça demande du temps.
C'est un travail de patience, c'est un travail de toute une vie. J'ai parlé de l'accompagnement spirituel. C'est une aide précieuse parce que ça nous apprend justement la patience. Ça nous apprend, ça nous fait comprendre que ce travail ne se fait pas, n'est pas un travail de magie. J'y ai ma part. La grâce est là, elle est agissante, évidemment. Et ce travail ne peut pas se faire sans la grâce. Il ne peut pas se faire sans le Christ, mais il ne peut pas se faire sans moi. Et il ne peut pas aussi se faire sans l'autre, sans l'aide de l'autre. Je crois que nous sommes tous là, la grâce, l'autre, le frère et moi-même. Et à partir de là, je vais prendre conscience qu'un travail est à faire et que ce travail ne peut pas se faire sans ce combat spirituel et sans les outils spirituels qui sont mis à ma disposition. Je crois que c'est extrêmement important. Et il ne faut pas avoir peur de notre humanité. Il ne faut pas que cette humanité nous empêche d'avancer, nous empêche d'être, parce que nous avançons avec ce tout. Et c'est là que François, c'est là que l'homme François nous apprend que c'est avec ce tout que nous avançons. C'est une grande force, vous savez.
De toute façon, cette humanité, on ne peut pas y échapper. C'est notre condition.
On n'y échappe pas.
Pour le meilleur et pour le pire.
Oui, on n'y échappe pas. Nous n'avons pas à vouloir y échapper. On n'a pas à se maintenir sur des hauteurs inatteignables. Nous avançons avec ce magma humain. Et nous avons tout simplement à nous laisser purifier spirituellement, à laisser purifier tout notre être. Et c'est là que l'homme nouveau, le Christ, va apparaître et qu'on va lui laisser de plus en plus de place. C'est ce que François nous apprend, et d'autres saints, bien sûr.
Donc patience, vous parlez aussi de dépouillement. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Oh, le dépouillement, c'est un bien grand mot. Et c'est un très gros travail, c'est une grande exigence, parce que pour se laisser dépouiller, avoir le désir de se dépouiller et de se laisser dépouiller, c'est se laisser dépouiller de soi-même, c'est-à-dire apprendre peu à peu à faire abstraction de cet ego, de cet esprit de puissance et cette volonté propre qui nous tenaille et qui nous empêche justement de vivre en liberté, parce que nous sommes justement toujours tenaillés par cet orgueil, par cet esprit de puissance.
L'exemple de François d'Assise, Suzanne Giuseppe Testu, ça peut nous amener très loin. Parce qu'en termes de dépouillement, il a vécu des choses assez radicales. Et dans le livre, vous soulignez aussi que ça peut conduire à des expériences de rejet, d'hostilité, ce que François d'Assise a vécu, voire d'insultes. Et vous parlez de la joie de la croix.
Oui.
Ça peut paraître aussi un peu surprenant.
Oui, ça passe mal parfois. C'est vrai, ça passe mal. Oui, mais François, bien sûr, à l'extérieur, les frères, que ce soit lui ou ses frères, dès l'instant ils se sont engagés à la suite du Christ, on peut considérer leur engagement radical, mais j'aime bien dire que chacun sa radicalité. C'était la radicalité de François et de ses frères.
On n'est pas tous appelés à la même ?
Je ne pense pas. Vous savez, je dis toujours, j'ai mon petit dé à coudre de grâce. Et ma radicalité, elle était à la mesure de mon dé à coudre de grâce. Peut-être que François et ses frères avaient un verre à moitié plein, ou plein, mais s'ils sont arrivés à vivre ce qu'ils ont vécu, c'est tout simplement parce qu'ils étaient animés par la grâce et qu'ils avaient ce potentiel de grâce qui leur permettait d'avancer. Mais ils ont dit oui. Ils ont dit oui. Alors, il est certain qu'à l'extérieur, ils n'ont pas échappé aux moqueries, aux affronts, aux humiliations. Mais vous savez, nous non plus, nous n'y échappons pas. Si nous regardons notre vie, nous traversons des choses comme ça. Ils ont connu aussi la difficulté des relations interpersonnelles au sein des fraternités. L'esprit de fraternité n'est pas arrivé comme ça. Ce n'était que des hommes. Nous aussi, nous sommes confrontés à cette difficulté. Est-ce que nous aimons tout le monde dans notre entourage ? Dans notre famille même ? Est-ce que nous aimons tous les membres de notre famille ? Certainement pas. dont nous aussi nous expérimentons même le rejet parfois, nous expérimentons l'incompréhension, eh bien tout cela se travaille. Nous avons à trouver un équilibre psychologique, mais aussi par ce combat spirituel, par ce désir d'apporter la paix et d'apporter l'amour, nous avons à trouver un équilibre spirituel. Et c'est en cela que François nous enseigne. Il est là le combat, il est extrêmement exigeant, mais c'est un combat pour la vie.
Il est décapant.
Il est décapant, et je crois que la croix, elle est là, la joie de la croix, elle est là, parce que il ne faut pas s'imaginer que François ne souffrait pas. Il a beaucoup souffert, François. Les frères aussi ont souffert. Moi aussi, si quelqu'un me fait du mal, j'ai mal et je souffre. Mais justement, je vais essayer d'être attentive à la réponse que je vais donner. Je vais essayer de donner une réponse spirituelle, une réponse en Christ. Et plutôt que de me précipiter, je vais déposer tout cela. Eh bien, elle est là, la joie de la croix, parce que je vais entrer dans un dépassement. C'est pas du masochisme.
Et c'est là
un dépassement d'amour.
Et que la patience est importante et que le temps peut être un atout pour que la blessure ou que la souffrance ne suscite pas une réponse immédiate et parfois disproportionnée
oui.
ou à côté.
Oui. La souffrance est quelquefois à digérer et il faut savoir attendre et il faut savoir la déposer sous le regard du Seigneur et ne pas avoir peur de cette première réaction qui monte en nous et qui peut-être nous entraîne très loin. Elle peut même se produire.
Qu'est-ce que ça peut être? De la colère, de la haine?
Oui, ça peut aller jusque-là.
Une profonde tristesse?
Oui, ça peut aller jusque-là. C'est toutes les passions qui sont mises en mouvement. Mais à ce moment-là, nous avons à regarder cette humanité, nous avons à la nommer et là, je vais pouvoir reposer un acte autre. La joie de la croix, elle est là, parce que je vais dire, mais Seigneur, aide-moi à poser un acte d'amour. J'ai mal, mais j'ai le désir de donner une réponse spirituelle et d'être le témoin de ta présence.
Et il est là le combat.
Il est là le combat.
Ça n'est pas autre chose finalement.
Ce n'est pas autre chose, c'est le combat de l'amour. C'est le combat de l'amour. Je crois qu'il y a aussi le désir de faire plaisir au Christ, comme François avait ce désir de faire plaisir au Christ. Et là, il y a une véritable communion. Elle est là, la joie de la croix, dans cette communion qu'il y avait le Christ et dans cette grâce qui abonde.
Et puis là, c'est notre humanité. Vous aimez bien ce terme,
oui.
Vous l'utilisez souvent. Notre humanité dans ce qu'elle a de plus beau, de plus digne.
Oui,
ne pas
oui.
se laisser emporter par les passions et par les instincts et les réflexes,
oui.
mais par quelque chose de plus profond et de plus compliqué aussi.
À gérer.
À trouver. Oui,
et à trouver. Oui, c'est tout le travail de François vis-à-vis de ses frères et de nous-mêmes. François n'a jamais condamné qui que ce soit. Son souci a toujours été de redonner la dignité à l'autre. Et je crois que cela doit être notre propre souci. Donc même si nous sommes attaqués, même si cela nous fait mal, ne perdons jamais cette chose-là. Restons dignes et permettons à l'autre d'agir peut-être un peu plus dignement que ce qu'il a agi envers nous. Et là, ça porte des fruits.
L'amour est au centre du combat spirituel tel que vous nous le décrivez, Suzanne Giuseppi Testu. Il est au centre, ça en est l'enjeu d'ailleurs.
Oui.
À la fois, ça en est aussi l'arme. On ne peut pas y échapper. Aimer plus, aimer mieux, aimer en vérité, c'est tout ce qui est à mettre en œuvre. Ça prend toute une vie, ça.
C'est toute une vie parce que nous croyons aimer. Et nous nous apercevons justement tout au long de notre vie que nous aimons mal. Mais j'ai envie de dire, ce n'est pas grave. Il ne faut pas s'attarder à cela, il faut l'accepter. Et justement, c'est là que le combat spirituel prend toute sa dimension et prend toute sa beauté. Parce que on en a parlé tout à l'heure, oui, on en voit les progrès. Et François, au début, le tout jeune François, ne savait pas aimer. Il a appris à aimer au contact de ses frères, il a appris à aimer justement en aimant mal. Et c'est comme ça qu'il a appris à aimer. Donc oui, c'est un combat de toute une vie, c'est comme ça qu'il est devenu artisan de paix.
Alors cet amour auquel il aspirait, auquel nous aspirons tous, il faut le mettre en œuvre et en tout cas pour lui, c'est passé, vous l'avez dit, par l'expérience de la vie fraternelle.
Oui, je crois que il dit dans son testament, les premières phrases qu'il donne dans son testament, c'est « Le Seigneur m'a donné des frères ». Et je crois que sans ses frères, François ne serait jamais devenu Saint François. Il ne serait pas devenu saint. Il s'est confronté, il s'est heurté justement à la misère de ses frères et à sa propre misère. Et il sait très bien que tout homme, toute femme a besoin d'amour. Et d'ailleurs, dans sa première règle, il dit que les frères s'aiment les uns les autres et qu'ils montrent par des actes l'affection qu'ils ont les uns pour les autres. Ça montre que lui avait un terrible besoin d'aimer et d'être aimé. Et même dans sa règle pour ses ermitages, je le cite de mémoire, il dit que deux soient les mères et que deux autres soient les fils. Donc ça montre à quel point François a besoin de cet amour et il sait à quel point nous avons besoin de l'amour. Donc sans amour, nous ne pouvons pas combattre, nous ne pouvons pas avancer, nous ne pouvons pas vivre.
C'est étonnant parce qu'il parle d'affection, comme s'il se situait au niveau des émotions, alors que on dit volontiers dans le christianisme que c'est l'amour l'agapé, vous savez, cet amour fraternel, universel, qui se situe justement bien au-delà des simples émotions.
Alors oui, l'amour agapé, je crois que seul Dieu est amour agapé, seul le Christ. Je crois qu'il faut avoir l'humilité de le comprendre, mais nous y tendons, nous nous exerçons à aller vers cet amour. Pourquoi avoir peur des émotions? Pourquoi avoir peur de la tendresse? Le Christ nous a montré sa tendresse durant son chemin de vie. À Gethsémani, il n'a pas eu honte, il n'a pas eu peur de montrer sa détresse. Il a demandé à ses frères en humanité d'être là. Donc François n'est pas un homme desséché. Il vibre de tous ses sens, François, et sa conversion n'a pas anéanti sa personnalité. Pourquoi les sens nous sont donnés? Peut-être nous n'en faisons pas toujours un très bon usage, mais ils nous sont donnés justement pour nous approcher de l'autre, pour entrer en relation avec l'autre, pour entrer en amitié, pour le regarder avec un regard d'amour. Et pourquoi pas pour le toucher? François savait toucher ses frères, il savait les regarder, il savait être tendre. Donc ni son ascétisme ni sa vie spirituelle n'ont émoussé sa sensibilité. N'en ayons pas peur, mais apprenons à les mettre au service de l'amour pour justement, peu à peu, à purifier cet amour et à nous approcher de l'amour agapé. Mais je crois que nous ne pourrons le vivre que dans l'au-delà.
Ça veut dire que ce combat spirituel, dans la vie fraternelle, dans la vie relationnelle, passe par des choses parfois très concrètes.
Oui,
et parfois très simple.
Très concrète, très humaine, très simple. Il est certain que nous n'avons pas à nous laisser emporter, évidemment. On parle de la douceur et de la tendresse. La douceur n'est pas la miellerie. Oui, il y a la miséricorde dans la douceur, mais ce n'est pas tout permettre, ce n'est pas tout admettre. Il y a des limites à cela. Je crois que ne nous laissons pas emporter, mais n'ayons pas peur de ces sentiments humains.
Et lui n'en avait pas peur, donc. Et il était capable de manifester de façon très simple et très concrète, encore une fois.
Oui, il savait avoir de la tendresse pour ses frères. D'ailleurs, justement parce qu'il n'avait pas peur de son humanité et qu'il la connaissait, il savait reconnaître en frère, dans ses frères, un frère qui était en difficulté. Sinon, s'il recouvrait tous ses sentiments, s'il en avait peur ou s'il les refusait, comment aurait-il pu regarder un frère en difficulté? Comment aurait-il pu aider un de ses frères qui se laissait emporter? Justement, il savait reconnaître toutes ces choses-là. C'est ce qu'il dit dans ses admonitions. Ce sont tous les conseils qu'il nous donne.
Suzanne Giuseppe Testu, quand on parle d'amour, d'amour fraternel, de relations fraternelles, on peut aussi évoquer ce que vous avez évoqué au tout début de ces entretiens, c'est-à-dire la miséricorde. avoir un regard sur l'autre et sur soi-même, plein de compassion, de tendresse.
Oui, je crois que nous sommes très durs avec nous-mêmes. Nous avons tendance à nous juger. Et pourquoi nous nous jugeons ? Parce que nous nous mesurons. Et la première miséricorde, ce n'est pas la complaisance, mais être miséricordieux avec soi. Le Seigneur l'est. Ne tombons pas dans cet orgueil immense qui serait de nous vouloir parfaits et de nous juger au point de nous anéantir. Je crois que ça serait extrêmement grave. Et François est très vigilant à ce niveau-là. Donc je crois que aimer vaut mieux que condamner. Ne nous condamnons pas. Essayons d'apporter un acte autre, mais ne condamnons pas l'autre. Et la miséricorde triomphe toujours du jugement. Parce que si à travers nos sens, nous avons parlé des sens, nous ne témoignons pas de l'amour du Christ et de sa miséricorde, si nous ne savons pas à notre tour être miséricordieux, eh bien il y a un manque. Et ce manque est très grave parce qu'il entraîne des conséquences terribles au niveau humain et spirituel. On est des hommes et des femmes au cœur sec.
Ça veut dire que ce combat spirituel nous délivre aussi d'une forme de culpabilité, soit celle qui peut nous ronger parfois, oui, soit celle qu'on peut faire porter à l'autre.
Oui, parce qu'il y a les vraies culpabilités, cette culpabilité qui est issue d'un acte volontaire dont on sait qu'il n'est pas beau, qu'il n'est pas bon, ça se travaille. Mais même ça, nous n'avons pas à nous laisser tuer par cela. C'est là que l'accompagnement spirituel est extrêmement important. Mais il y a aussi les fausses culpabilités, c'est-à-dire nous ne rentrons pas dans certaines normes et nous nous culpabilisons à cause de cela. Je crois que nous avons à assumer toutes ces choses-là. Et il faut savoir que nous n'arrivons pas toujours à faire usage envers nous-mêmes et envers les autres des outils de guérison que sont la confiance, que sont l'espérance et la miséricorde. Employons-les vis-à-vis de nous-mêmes. Et à ce moment-là, si nous les employons vis-à-vis de nous-mêmes, nous entrons dans un travail intérieur. Et si je m'exerce à ce combat, et si j'entre de plus en plus dans cette confiance, dans cette miséricorde, dans cette espérance, je vais pouvoir utiliser ces outils envers les autres. Je vais pouvoir aider l'autre à guérir.
C'est un combat de douceur, finalement.
Oui, c'est paradoxal. Un combat de douceur et de tendresse. C'est la tendresse du Christ qui est à l'œuvre. Et vous savez, si nous le regardons, si nous apprenons à le regarder en face à face, à plonger notre regard dans son regard et à nous laisser regarder, nous ne voyons que la tendresse et la miséricorde. Et c'est justement ce regard de miséricorde que je vais devoir porter sur l'autre. C'est un combat, c'est un apprentissage, c'est le combat de l'amour.
C'est celui qui nous conduit à déposer les armes, finalement, celles qui font barrage.
Oui, nous déposons toutes ces armes, toutes ces passions que nous employons pour nous défendre, pour tuer l'autre, pour convaincre l'autre que nous avons raison, pour le démolir par tous les moyens, mais nous n'en avons pas besoin. Avec cette miséricorde, avec ce regard d'amour, avec cette tendresse du Christ, ne croyons pas passer pour des lâches, mais pas du tout.
Alors, pas de lâcheté, mais de la vulnérabilité peut-être quand même.
Oui, eh bien tant pis si l'autre pense cela. Il s'apercevra après que c'est une grande force. Acceptons même ce regard. Il n'est pas toujours facile à gérer ce regard, mais acceptons-le et avec le temps, l'autre comprendra parce qu'il verra une véritable transformation en nous et là, il découvrira la véritable force qui nous anime.
Il faut parfois en passer par là,
oui,
prendre ce risque-là.
Il faut prendre ce risque. Il faut prendre le risque de l'incompréhension, il faut prendre le risque du jugement, il faut prendre le risque de la critique, mais parce que j'avance avec l'amour du Christ et que je l'ai expérimenté et que je sais quels en sont les bienfaits d'abord sur moi-même et au niveau de mon entourage, quand je vais voir cette incompréhension, eh bien je vais continuer. Elle est là la joie de la croix. Parce que je sais que le Christ est toujours vainqueur et qu'avec ce combat, je suis toujours vainqueur. Parce que c'est le Christ qui est vainqueur en moi.
Suzanne Joseppi-Testu, quand on regarde le parcours de François d'Assise, sa vie intérieure, sa vie personnelle, on se rend compte que le combat qu'il a mené n'est pas un combat spectaculaire, flamboyant, rayonnant. Rayonnant, oui, mais surtout intérieur. La lutte, elle est là d'abord.
Elle est en premier lieu là.
Intérieure.
Oui, c'est d'abord un combat intérieur. D'ailleurs, au tout début, je commence par parler de ce combat de François, parce que il est vraiment dans le monde, on le sait, il a de très grandes ambitions, il y a un appel, il sent que ça ne va pas, et évidemment, il est confronté à ce combat intérieur, et pour s'y confronter, il va se réfugier dans une grotte, et là, il y a toutes les forces adverses qui s'affrontent.
Parce que l'enjeu pour lui, c'est de quitter, comme vous le dites, une route toute tracée finalement, assez confortable. Il est issu d'une famille bourgeoise qui a des moyens, riche.
Oui, mais à cela se rajoute, mais ça ne lui suffit pas. Et c'est ça qui est terrible. Et on s'aperçoit à quel point la vie de François est très proche aussi de la nôtre, parce que il a tout ce qu'il faut, il a un avenir qui s'annonce confortable, comme vous dites, mais ça ne lui suffit pas, il veut plus, il veut des titres, il veut la gloire, et il part dans un projet qui n'est pas tellement confortable, puisqu'il part pour faire la guerre, mais évidemment lui ne risque rien, hein. Il risque pas de se faire tuer, il va gagner des titres, bon, et puis Dieu le rattrape, Il écoute cette voix intérieure qui le rappelle, et donc il revient à Assise, et là il sait plus du tout où il en est, et un véritable combat intérieur. Il se confronte à ce combat intérieur parce qu'il ne sait pas du tout que c'est Dieu qui l'appelle, il ne sait pas vers où il va, mais il commence à le comprendre dans cette grotte, et il commence à voir l'inutilité de son propre projet de vie. Il ne sait pas vers où cela va l'amener, mais n'empêche qu'à ce moment-là, le combat, ça va être de dire oui. Ça va être de dire oui à cet appel, ça va être de dire oui à ce renoncement vers lequel Dieu l'appelle. Hein, ta place n'est pas là. Et il va dire oui.
Pourquoi est-ce que c'est si difficile à abandonner cette place?
Mais bien sûr que c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que c'est mon projet, c'est mon ego. C'est ce que j'ai décidé, c'est ce que je veux, c'est le petit moi qui veut tout ça. Et évidemment, on est tellement sûr de soi qu'on s'imagine que c'est la meilleure part. Mais c'est pas ça, ce n'est pas ce que Dieu veut pour François. Donc c'est très difficile à lâcher, c'est très difficile à abandonner, tout simplement parce qu'on croit que c'est le meilleur, on croit que c'est la meilleure part.
Et en même temps, parce que il y a quelque chose en nous qui nous dit que on est attendu ailleurs.
On est attendu ailleurs,
on pressent quand même.
On le pressent.
Autre chose.
On le pressent. D'ailleurs, si François ne le pressentait pas, il ne prononcerait pas ce oui. Il sent qu'il va vers autre chose, mais il ne sait pas encore vers quoi. Et il va commencer à voir ce quoi, hein, pour qui, pourquoi, il va commencer à voir ce quoi quand il va être confronté, quand son père va le mener devant les tribunaux et le conduire devant l'évêque d'Assise. Et là, il va comprendre que c'est vraiment Dieu qui l'attend, et il va devoir abandonner, y compris son héritage, il va devoir tout abandonner, il va donc devenir réellement pauvre d'abord, pauvre de tout ce qu'il possédait, avant de devenir le véritable pauvre selon Dieu. Donc vous voyez que tout ça, ce sont des étapes, parce que si nous devions répondre immédiatement au projet de Dieu, mais nous ne pourrions peut-être pas, parce que on pourrait pas, on ne supporterait pas, ce n'est pas à notre portée. Donc le chemin de François se fait graduellement, progressivement. Dieu nous conduit au fur et à mesure de nos possibilités. Nous n'avons pas à avoir peur du combat. Il est à notre mesure. Il nous prend là où nous sommes et nous avons à poser un acte et à combattre là où nous sommes et où nous en sommes, tout simplement.
Alors n'empêche que lui, il a dû vraiment lâcher des choses très importantes. Et on a déjà parlé de radicalité dans sa vie. C'était tout quitté quand même.
Oui, mais c'était à sa mesure. Je crois qu'on l'a dit, c'était à sa mesure. Il a le potentiel de grâce qui lui permet, enfin c'est ce que je crois, il a le potentiel de grâce qui lui permet d'entrer dans cette mesure. C'est la mesure de François d'Assise, et nous le savons bien, tous les frères qui l'ont suivi ne l'ont pas suivi sur cette mesure.
Nous, il y a eu des résistances.
Hein. Il y a eu des résistances, évidemment. Tous n'ont pas pu, mais tous l'ont suivi à leur mesure, et moi je le suis à ma mesure.
cette lutte que vous venez de décrire, donc là, en l'occurrence, en ce qui concerne François d'Assise, elle s'est passée d'une façon très concrète, devant des juges, en présence de son père, en présence de notables. Mais avant ça, et puis après, évidemment, encore, ça s'est fait intérieurement. C'était vraiment quelque chose entre lui et Dieu.
Je crois qu'il y a toujours une confrontation. On ne peut pas se soustraire à cette confrontation. Rien n'est jamais acquis une fois pour toutes. Nous avons dit oui, mais ce oui, il est à renouveler en permanence. Et nous savons que malgré notre quête de l'essentiel, c'est-à-dire du subtil, du léger, hein, nous avons ce désir d'entrer dans cette verticalité vers laquelle le Seigneur nous appelle. Et nous devons toujours affronter son contraire. Elle est là, la lutte. Et son contraire, qu'est-ce que c'est? C'est le monde, c'est le matériel, c'est le loup, c'est les choses du monde, c'est la dimension horizontale de l'être. Donc, il y a toujours une lutte.
Et une tension permanente.
Disons que je crois que oui, il y a une tension, mais cette tension, elle va en diminuant. Et c'est là où on voit l'œuvre de la grâce. Et c'est là où on voit la nécessité du combat. Parce que plus je vais combattre pour laisser la place au Christ en moi, plus je vais œuvrer avec la grâce, moins il y a cette tension intérieure, plus je vais faire l'expérience de la pédagogie divine à l'œuvre, et plus je vais m'interroger, et je vais de plus en plus savoir que là, ça ne va pas, je suis en train de me laisser emporter, et je vais dire, mais attention, qu'est-ce que le Christ est en train de me signifier? Je dois entrer dans ce combat, mais le combat va devenir de moins en moins pénible, de moins en moins difficile. Certes, je m'en passerai bien parfois, mais je sais pour qui, pourquoi je combats.
Est-ce que j'apprends aussi à me connaître?
Oh, c'est essentiel.
Tout simplement.
C'est le béaba, c'est le béaba du chemin
Parce
spirituel.
Parce que les expériences précédentes m'ont appris des choses, on apprend de la vie aussi.
J'en fais une richesse. Je fais de toute cette expérience passée, de mes coups manqués, j'ai raté la cible, comme on dit. Et c'est toute cette richesse, cette expérience passée, y compris surtout de mes erreurs, qui vont m'alerter. Et je me dis parfois, attention, ne refais pas les mêmes erreurs. Mets-toi en état de combat spirituel. Fais l'usage de tout ce potentiel divin que le Seigneur a mis en toi, de toutes ces énergies divines qui sont en toi. Fais-en usage.
Est-ce que ça ne peut se vivre que dans la prière aussi?
C'est indispensable. Si je ne prie pas et si je n'appelle pas le Christ, si je ne me mets pas sous le regard du Père, sous le regard du Fils, si sous le regard de l'Esprit, je ne m'en sors pas. C'est un travail qui se fait avec la grâce et qui est issu de la grâce. Parce qu'à ce moment-là, je compte sur mes propres forces et ce n'est plus un combat spirituel. Je fais appel à mes propres armes et là, je me trompe de cible. Ça ne marche pas.
La véritable arme, donc on a dit c'est l'amour, mais c'est aussi la prière. Donc
c'est la prière.
C'est là que ça se...
Rien ne peut se faire. Le combat spirituel avec le Christ ne peut se faire qu'avec la prière et avec la lecture de la mendication de la parole. Et à ce moment-là, au cœur du combat, c'est la parole qui va jaillir. C'est le Christ qui va parler en moi. Et c'est là la joie, je le répète toujours, elle est là la joie de la croix. Parce que c'est la parole qui prend le dessus en moi. Mais elle le prend parce que j'ai dit oui.
Donc ça demande un certain abandon.
Oui, c'est difficile l'abandon. Alors est-ce que je m'abandonne totalement? Je ne crois pas, mais j'essaie de m'abandonner et je demande au Seigneur de m'aider à m'abandonner. Mais je crois qu'en fin de compte, là aussi, c'est lui qui s'abandonne en moi. Donc je m'abandonne dans ses bras, mais c'est lui qui s'abandonne en moi et j'ai la joie de m'abandonner. Voilà. Mais je crois qu'il n'est jamais total, l'humain est toujours là, la part humaine est toujours là. Mais quelle grâce quand on s'exerce à l'abandon avec le Christ.
Le combat spirituel dont nous parlons, Suzanne Giuseppi Testu, à la suite de François d'Assise, n'est pas un combat qui consisterait à rejeter le monde, à vouloir l'anéantir parce qu'il serait mauvais. Il s'agit au contraire, on l'a dit dans notre premier entretien, d'un combat pour la vie, dans la joie, vous avez insisté, et
oui,
pour la paix.
Oui, pour la paix dans le monde. En fait, François était tenté de s'éloigner de ce monde parce qu'il voyait à quel point au cœur de ce monde, eh bien, il subissait justement de nombreuses tentations. Il lui était peut-être difficile de suivre le Christ, mais Claire et ses frères l'ont ramené au cœur de ce monde, parce que c'est là que nous sommes utiles. Donc, il a toujours eu une analyse très pointue du monde, et son enseignement, ses paroles sont très actuelles. Donc, il ne tait pas le monde. Il le ramène même à la conscience de ses frères, il nous invite même à le prendre à bras le corps. Et c'est là d'ailleurs, c'est au cœur de ce monde que la pédagogie divine est à l'œuvre, c'est là que nous sommes renvoyés à notre responsabilité, c'est là que nous avons à poser des actes concrets.
À œuvrer.
C'est là que nous avons à œuvrer, c'est dans ce monde. Et ne croyons pas d'ailleurs que les religieux, les ordres religieux qui sont en clôture ne sont pas dans ce monde. Ils sont bien sûr rattrapés par ce monde, et eux aussi, les réponses qu'ils apportent ne sont pas en dehors du monde. Ils se situent également dans ce monde. Nous avons à le prendre à bras le corps, à ne pas en avoir peur.
Est-ce que c'est pas une utopie ? La fraternité, la paix, l'amour, tel qu'on en a parlé là.
Je ne pense pas. On peut penser, vous savez, l'utopie, on peut penser que la fraternité, selon saint François, elle dure depuis 800 ans. Hein, ça continue. Hein. Donc je crois que c'est une urgente nécessité. Le monde ne peut pas, à mon avis, à mon humble avis, le monde ne peut pas s'en sortir sans fraternité, sans l'esprit de fraternité. Et je crois que François était extrêmement clairvoyant. Le monde dans lequel il vivait n'était pas meilleur que le nôtre, vous savez. Donc je crois que s'il a tant parlé de la fraternité, s'il a tant œuvré pour la fraternité, c'est pour justement œuvrer pour la dignité des hommes. Et on ne peut pas redonner la dignité aux hommes sans avoir un esprit de fraternité. Ce n'est pas possible.
Par contre, les combats auxquels nous sommes invités, peut-être dans le monde dans lequel on est, on ne peut pas être sur tous les fronts.
Non.
Il faut choisir, il faut discerner ce qui vaut la peine de se battre ou ce qui vaut la peine de... Où est-ce qu'on met son énergie, quoi ?
Je crois que chacun est appelé. Nous avons à écouter, et c'est là où l'écoute du cœur est extrêmement importante. Le combat spirituel passe par l'écoute du cœur. Il passe aussi, j'en parle souvent, par l'accompagnement spirituel qui nous aide à trouver où est notre véritable vocation. Nous avons à être à l'écoute de notre désir. Bien sûr qu'on ne peut pas combattre sur tous les fronts. Vous, bien, vous êtes là au cœur de la radio et vous apportez beaucoup. Moi, j'essaie à mon niveau, par l'écriture, d'apporter. Nous avons à entrer dans un discernement. Et je crois que quand on a trouvé notre vocation, c'est là qu'il faut une écoute profonde et pour nous se laisser conduire. Et c'est là que quand on a trouvé notre vocation, il ne faut pas se disperser. Il faut s'y tenir. Il faut œuvrer au cœur de notre vocation. Là, nous sommes très utiles. Moi, je ne suis pas Mère Teresa, je suis Suzanne et j'essaie d'apporter ce que je peux. On l'a dit, j'ai mon dé à coudre de grâce et j'essaie d'œuvrer là où je suis, mais au cœur du monde. Et je crois, il faut surtout croire à ce que l'on fait, croire à notre vocation et s'y tenir.
C'est-à-dire croire à ce que l'on fait.
Eh bien, par exemple, j'écris, pardonnez-moi de parler de moi, mais j'écris, je fais de l'accompagnement spirituel, j'anime des sessions et des retraites et d'autres choses me sont demandées en église. Je n'y vais pas. Parce que je sais que ma vocation, elle est là, et mon désir est là, dans ce que je fais. Et je le fais avec toute ma foi, avec toute mon énergie, avec toute ma force, et je me contente de ma mesure, et j'y crois. Et le Seigneur me montre que ça porte des fruits. Je ne vais pas chercher ailleurs, parce que ce que je fais, je ne le fais pas pour moi, mais je le fais pour le Seigneur. On en revient à cette notion de pour qui ?
Pourquoi ?
Est-ce pour ma gloire personnelle ? Est-ce pour me faire plaisir ? Est-ce à mes fins propres ? Non, parce que ça ne marcherait pas. Je le fais pour le Seigneur et il me montre que c'est là que je dois être. Et je m'y maintiens. Cela me suffit.
Thank you.
J'aimerais qu'on revienne sur une notion aussi que vous avez évoquée à plusieurs reprises. Ce combat spirituel, c'est un combat pour la vie.
Oui.
C'est le critère également très important. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de détruire quoi que ce soit,
non.
Il s'agit de favoriser ce qui nous rend vivants, ce qui fait de nous des vivants.
Oui, je crois que c'est là l'enjeu, l'enjeu de toute une vie, l'enjeu du monde. Chaque homme, chaque baptisé doit savoir qu'il combat pour le salut du monde. On ne combat pas pour soi-même. Nous en récupérons de nombreux fruits parce que le Christ, le Seigneur, est miséricordieux avec nous et c'est ce qui nous permet de continuer. Mais je crois que le vrai combat, il est vraiment pour la fraternité dans le monde et pour le salut du monde.
Alors quelquefois, les chrétiens sont mal perçus. Perçus comme des gens qui entrent en résistance et qui combattent tout ce qui peut sembler aller à l'encontre de leurs valeurs. Vous savez, l'idée de la forteresse assiégée.
Justement, est-ce le bon combat, ça ? Je me questionne. Je me questionne parce que je pars souvent en mission, très souvent au Proche-Orient. Je rencontre des gens, je rencontre des hommes, des femmes, des hommes qui sont très 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 beaux. Avons-nous besoin de combattre sur ce terrain-là ? Je crois que si j'ose montrer mon appartenance au Christ, si j'ose me montrer et me laisser voir en tant que chrétienne et avec l'amour qui m'anime, si j'ose être en quelque sorte une parole vivante, ai-je besoin de convaincre l'autre ? Ai-je besoin de combattre, de m'opposer à l'autre ? Si j'apprenais simplement à être ce que je suis et à témoigner de ce que je contiens, je crois que ça serait suffisant. D'ailleurs, quand François envoyait ses frères en mission, il leur disait « Ne cachez pas que vous êtes chrétien, simplement apprenez à être ». Apprenez à témoigner de ce que vous contenez. Vous contenez le Christ, tout simplement. A-t-on besoin de s'opposer à l'autre à ce moment-là ?
Mais par contre, on est aussi encouragé à s'engager, par exemple, sur le terrain politique ou le terrain social en tant que chrétien. Est-ce que c'est d'un autre ordre, le combat dont vous parlez ?
Je crois qu'il y a des personnes qui ont reçu cette grâce et ces capacités de témoigner de leur foi en s'engageant politiquement. Moi, ce n'est pas mon domaine. J'en suis absolument, absolument incapable. Ce n'est pas ma voie. Donc, je reste dans la dimension profondément humaine et spirituelle.
Mais c'est compatible, je veux dire, ce combat-là avec le combat spirituel que François nous laisse.
Je crois que rien n'est incompatible dans la mesure où on sait où on se situe. Sur quel terrain je me situe ? Est-ce que je me situe totalement dans ce monde et je m'y situe à des fins propres ? Ou est-ce que je suis dans ce monde, mais je me situe en Christ et à ce moment-là, quel que soit le lieu où je vais me trouver, je ne vais pas avoir peur d'être un témoin du Christ vivant en moi. Je crois que c'est ça, savoir sur quel terrain je me situe. Moi, j'essaie de me situer en Christ où que j'aille. J'essaie de me situer en Christ. Je porte mon taux et dans tous les pays où je vais...
Votre taux, c'est la croix que vous avez autour du cou.
La croix de Saint-François, oui. Et je n'enlève pas mon taux. J'accepte, je prends ce risque. Je me situe en Christ où que ce soit. Je sais sur quel terrain je me situe et j'en prends le risque.
On va conclure ces entretiens, Suzanne et Giuseppe Testu, en parlant de la victoire. Ce combat est victorieux par avance ?
Je crois que oui, je crois qu'il est victorieux par avance, mais il ne faut pas se fixer de temps. Parce que, bien sûr que j'œuvre en Christ, mais nous savons que nous n'avons pas toujours une réponse qui est immédiate. Mais j'ai la certitude, parce qu'il est en Christ et qu'il n'est pas posé uniquement par mes propres forces, qu'il sera toujours victorieux. Mais je ne dois pas en attendre la preuve. Quand ces preuves arrivent, parfois quand elles me sont données, je suis dans une grande joie. Mais je pose mon acte et je sais dire dans certaines circonstances, « Seigneur, à toi, parce que cela me dépasse. Moi, j'ai posé mon acte, j'ai fait ce que j'ai pu, mais maintenant, à toi, c'est toi le maître. » Et en son temps, ça portera des fruits.
Un très grand merci de nous avoir parlé du combat spirituel, Suzanne Giuseppe Testu. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre qui porte ce titre, Le combat spirituel, à la lumière de saint François d'Assise et de ses frères. C'est un livre qui est paru aux éditions Nouvelle Cité. Et je rappelle que vous êtes laïque franciscaine. Merci à vous et merci à Christophe Morag qui était à la technique.
Merci à tous.